Alors, dans cet évangile, je découvre la colère de Jésus. Et Jésus n'a pas parlé pendant 30 ans. Il était déjà monté au temple quand il était petit. Il est resté dans un grand silence. Et là, tout d'un coup, nous découvrons ce qui habite le cœur de Jésus. La colère de quelqu'un exprime toujours le cœur de quelqu'un. Qu'est-ce qui te blesse ? Ta réaction signifie que c'est important pour toi. Je me disais, quand on se confesse, quand on va demander le sacrement du pardon, c'est mieux de demander au Seigneur « qu'est-ce qui te blesse ?» plutôt que « qu'est-ce qui me dérange ?» C'est pas la même chose. Des fois, nous péchons, et puis tel ou tel acte, en fait, abîme notre image. Oh, je suis retombé là-dedans. Ah, c'est dommage. Je pensais pas. Je pensais que j'étais meilleur. Mais c'est pas forcément un péché grave. Ça nous dérange. Ça dérange notre image. Mais c'est pas forcément grave aux yeux de Dieu. Et c'est là où il y a une conversion en demandant « mais qu'est-ce qui te dérange, toi ?» Les vendeurs dans le temple, ils pensaient que c'était bien. En fait, il y avait plusieurs cours dans le temple, le Saint des Saints, le lieu de prière réservé aux Juifs, et un lieu de prière réservé aux païens. Et alors, comme les Juifs disaient, mais comme c'est réservé aux païens, ça n'a pas beaucoup d'importance, on va mettre les changeurs à cet endroit-là. Oui, mais... Dieu veut faire de la maison, de sa maison, une maison pour toutes les nations, pas simplement pour les Juifs. Donc on découvre que, en fait, ce qui blesse le cœur de Jésus, on n'avait pas pensé avant que ça le blessait, les gens ne pensaient pas, et tout d'un coup, ils découvrent que ce lieu, réservé aux païens, est un lieu saint. Et ça blesse le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui te dérange, Seigneur, dans ma vie ? Alors, c'est une colère spirituelle. Vous savez, il y a des colères humaines et des colères spirituelles. Je pense qu'il est bon de se mettre en colère, puisque Jésus l'a fait. La question, c'est d'avoir une juste colère. Quand est-ce qu'elle est juste, la colère ? Quand son objet est juste et quand elle est proportionnée. Souvent... Humainement, quand on va se confesser de la colère, on va dire « bah oui, je me suis mis en colère pour telle chose ». Et le problème, c'est que l'objet ne méritait pas une colère. Donc ça a été, l'objet n'était pas juste. En fait, on m'a marché sur les pieds, mais oui, mais enfin bon, la personne, est-ce que l'a fait exprès, je sais pas. Enfin, c'était pas très juste. En fait, c'est mon orgueil qui a été atteint, et c'est pour ça que je me suis mis en colère. On m'a pas consulté ou... Bon. Est-ce que l'objet est juste, d'abord ? Et est-ce que ma colère, elle est proportionnée ? Vous avez remarqué que dans l'Évangile, bon, ils chassent les vendeurs de bœufs, de brebis, etc. Mais, eh bien, ceux qui vendent des colombes, eh bien, ils leur parlent. Ils ne chassent pas les colombes. Parce qu'il sait très bien que si il donne un coup de pied dans la cage, eh bien toutes les colombes vont partir et les vendeurs ne pourront plus retrouver leurs colombes. Donc il y a cette délicatesse, c'est très maîtrisé chez Jésus. Il va plutôt leur parler. C'est mesuré, c'est proportionné. Jésus n'a pas mis le feu au temple. Bon. Voilà, colère humaine, colère juste, l'objet est juste et proportionné. Colère spirituelle, il est important de se mettre en colère pour Dieu. Je pense que depuis les années 70, l'Église, donc c'est-à-dire chacun d'entre nous, les évêques, les prêtres, bon, le pape, c'est différent. Je pense qu'on a des bons papes. Mais on a une Église. Enfin, je trouve que le problème des papes, c'est qu'ils sont pas suivis. Mais ils sont quand même très énergiques. Donc on a des papes qui se sont mis en colère, mais on a une Église qui a été beaucoup dans la tolérance. Il ne faut surtout pas se mettre en colère, il faut être tolérant. Est-ce que Jésus dans l'Évangile est tolérant ? Je ne trouve pas qu'il soit très tolérant avec ses disciples. Hein. Avec Pierre, il lui dit « Écoute ce que tu me dis, là je ne suis pas d'accord, ça ne va pas. » Les disciples écartent les enfants. Jésus dit « Non mais écoutez là, vous écartez les enfants, mais non, laissez. Approchez-les, je m'en occupe. » Bon, donc, et puis avec les pharisiens, etc. Et la tolérance, chez nous, ça peut être une manière de démissionner. Alors là, on s'est réveillé avec la manif pour tous, bon, mais c'est un peu tard. On se réveille tardivement. Bon, donc c'est important, vous voyez, le signe, en fait, que je me mets en colère pour Dieu, une colère selon l'Esprit Saint, que je vais donc souffrir pour l'Église, pour le Christ, eh bien, il signe que dans mon cœur, il y a quelqu'un. Et que la religion n'est pas quelque chose de lointain. Bon, je pourrais m'arrêter là, j'ai encore deux homélies. Non, je vous fais des petites choses courtes. La deuxième chose, moi je vous fais deux idées, c'est tout. C'est que vous avez remarqué que l'évangile, en fait, des vendeurs chassés du temple, se passe juste après les noces de Cana. Ça veut dire quoi? Les noces de Cana, c'est Jésus qui montre son amour au chapitre 2. Et à la fin du chapitre 2, on a les vendeurs chassés du temple. Il y a un ordre dans l'évangile. Je ne vais pas me mettre en colère si je n'ai pas d'abord découvert l'amour de Dieu. D'abord, Jésus montre son amour avec les noces de Cana. Il vient redonner la vie à un mariage qui s'épuise. C'est gratuit, ça ne sert à rien. Il fait cette grande déclaration d'amour, ce premier signe, premier miracle dans l'évangile de Jean, les noces de Cana. Je vais remettre ma vie en ordre. C'est ça dont il s'agit dans l'évangile. Il faut mettre le temple en ordre, ma vie en ordre. Mais parce que j'ai d'abord découvert les noces de Cana, parce que j'ai d'abord découvert l'amour de Dieu. Regardez dans la première lecture. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas cela, etc., etc. Tu ne commettras pas de meurtre, de vol, d'adultère, etc. Parce que je t'ai libéré, je suis celui qui t'a libéré de l'esclavage. Alors, je te demande, de vivre selon une certaine loi. Ce qui est premier dans la vie chrétienne, ce n'est pas la loi. Ce qui est premier dans la vie chrétienne, c'est un Dieu qui nous libère. C'est un Dieu qui nous donne le vin en abondance à Cana. C'est un Dieu qui nous montre son amour et son cœur. Voilà. Exactement ce qu'il fait avec la Samaritaine. D'abord, il lui dit, je vais te donner à boire. Je vais te donner de l'eau vive. Ah oui, j'en veux. Tu es bon. Comme tu es bon, Seigneur. Et ensuite, il lui dit, écoute, appelle ton mari. Mais je n'ai pas de mari et... Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Celui que tu as n'est pas le tien. Tu as eu 5 maris. Donc, il a d'abord découvert comme un mendiant, fait découvrir à cette femme la beauté de son cœur, ce Dieu qui se fait mendiant. Et ensuite, il lui dit, écoute, si tu veux de cette eau vive... Il faut que, avec ton prochain, avec cet homme avec qui tu es, que ça soit juste. Et là, c'est pas juste. Avec le jeune homme riche, pareil. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie en héritage la vie éternelle? Tu as raison de m'appeler bon. Tu as découvert que j'étais celui qui pouvait te donner la vie. Alors maintenant, est-ce que tu connais les commandements? Pareil, reprends la liste. D'abord la bonté de Dieu... Et ensuite les commandements. Le problème du jeune homme riche, c'est pas qu'il soit avec quelqu'un qui est pas sa femme. Le problème du jeune homme riche, c'est la richesse. Ton problème à toi, c'est la richesse. Voilà. Tant que tu seras attaché à ta richesse comme ça, tu ne pourras pas entrer dans la joie de ton maître. On prend tous les épisodes, je pourrais prendre les apôtres. Pareil, Jésus déclare son amour et puis il va percevoir l'orgueil d'un tel qui veut être chef, d'un autre. À chaque fois, il y a des points de conversion qui sont différents. Ces points de conversion ne nous sont montrés que quand on découvre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Si nous ne connaissons pas cette bonté, eh bien, nous ne verrons rien et nous réduirons le christianisme à une morale insupportable. Voilà, demandons au Seigneur de comprendre le cœur de Dieu, ce qui blesse le cœur de Dieu. Essayons d'être des contemplatifs face à cette bonté de Dieu. Passons du temps à l'adoration. Et puis, nous aurons le courage de remettre notre vie en ordre. Amen.